Mondoscopie, un magazine coproduit par RCF et Radio Vatican, présenté par Bernard de Cotigny.
500, 80, 60. Et pour cette devinette, je vous donne deux mots, anniversaire et robe. Vous donnez votre langue au chat, et bien dans ce Mondoscopie, il sera question de la basilique Saint-Pierre, de la reine d'Angleterre et de la Cour internationale de justice. J'ai dit robe, la soutane du pape, les tailleurs de la souveraine et la robe du magistrat. Anniversaire Saint-Pierre, fête les 500 ans de la pose de sa première pierre. Élisabeth II d'Angleterre souffle ses 80 bougies. La Cour internationale de justice célèbre ses 60 ans. Il y a 500 ans, le 18 avril 1506, Jules II bénissait la première pierre de la plus grande église du monde. C'est bien pour glorifier la sépulture de l'apôtre Pierre que le pape Jules II prit la décision radicale, audacieuse même, le ferait-on encore aujourd'hui, de raser la magnifique basilique édifiée par Constantin qui avait tenu plus de 1000 ans. Décision tout simplement colossale, la réalisation de la nouvelle église allait durer plus de 100 ans, soit 20 pontifes et 10 architectes. Philippe Le Villain, auteur du Dictionnaire de la papauté, nous parle de Jules II, ce pape bâtisseur mais aussi querelleur, plongé dans l'histoire.
On peut l'encenser comme urbaniste, on peut le féliciter comme humaniste et on peut le discuter comme condottiere, c'est-à-dire comme pape qui était plutôt un prince laïque qu'un grand chef spirituel. Mais il a légué avec ce qu'on peut appeler l'urbanisation de Rome et l'exaltation de la puissance romaine avec la construction de Saint-Pierre de Rome, l'image de ce que devait être à ses yeux la papauté dans le monde au début du XVIe siècle. C'est un pape qui d'ailleurs arrive à la chaire de Saint-Pierre très tard, il ne régnera que 10 ans, de 1503 à 1513, et il a à l'époque 60 ans. Selon qu'on est vraiment, comme on dit en italien, papalino, c'est-à-dire sensible à l'exaltation de la grandeur de l'Église de Rome, c'est évidemment ce qu'il reste aujourd'hui, d'une part de la construction de Saint-Pierre de Rome, des musées du Vatican, avec notamment la fameuse statue de Laocoon et ses enfants qui est découverte en janvier 1506, dans un champ de vigne à proximité de la colline du Vatican, et que c'est lui qui fera ensuite décorer par Raphaël les fameuses stanze, et surtout construire par Michel-Ange, avec qui il aura des rapports très orageux, la chapelle Sixtine. Ça, c'est indiscutablement le point qui est à double face, à savoir splendeur et d'autre part excelle la splendeur, c'est-à-dire orgueil. C'est d'ailleurs à cause de cette splendeur urbanistique liée à son humanisme, car c'est un homme très cultivé, que l'on peut dire qu'il est un peu à la source de ce que deviendront les critiques de Luther qui provoqueront ultérieurement le Concile de Trente et toutes ses péripéties tout au long du XVIe siècle. Alors c'est un pape qui avait d'ailleurs la fascination des grandeurs, qui a dépensé des sommes folles dans le cas des territoires pontificaux, ayant une obsession, à savoir agrandir les états pontificaux, qui étaient sans arrêt menacés au sud par le royaume de Naples et au nord, à la fin du XVe siècle, par les Français. Alors, c'est un très grand diplomate qui est aussi un condottiere, il n'hésite pas à se battre, il va lui-même conduire ses armées à différents sièges, notamment en 1506 à Pérouse, il pratique des alliances, des contre-alliances, il s'unit à un moment donné avec Charles VIII dans sa grande descente vers l'Italie contre le royaume de Naples, puis ensuite il s'unira un peu plus tard contre la France, en l'occurrence en 1511, quand la France, dans ses conquêtes territoriales italiennes, envisagera de convoquer un concile à Pise, un concile schismatique en quelque sorte pour le déposer. Il créera contre la France une sainte ligue, comme il l'appellera, avec l'Espagne, avec Venise, pour laquelle il a lutté afin de la faire entrer dans les états pontificaux. Et on peut dire que toute sa carrière de pontife a vu l'alternance entre la surveillance d'un grand chantier du triomphe de la chrétienté à travers le siège romain et en même temps de l'extension du territoire pontifical dans la péninsule italique.
Volonté donc de puissance, avec cette nouvelle basilique, avec l'inauguration de ce chantier de la basilique Saint-Pierre, est-ce que Jules II avait en tête de construire ce qui deviendrait, ce qui serait le symbole du pouvoir du pontife romain? Il faut se rappeler que la résidence du pape n'était autre que Saint-Jean de Latran, hein, qui est la cathédrale du pape comme évêque de Rome, qui, elle, deviendra finalement un lieu de pèlerinage, alors que Saint-Pierre l'était jusqu'à cette époque.
Oui, tout à fait. En fait, il y a un déplacement du pôle. Il faut bien voir aussi que c'est très audacieux pour l'époque, parce que détruire la basilique constantinienne du IVe siècle, qui était un lieu de pèlerinage, qui notamment avait, avec l'organisation des jubilés au début du XIVe siècle, en 1300, un passé qui était extrêmement connu de l'ensemble de l'Europe, qui donnait lieu à des foules de pèlerins qui venaient par ce qu'on appelle la Francigene, qui franchissaient les Alpes et qui faisaient de longues étapes. Détruire cette basilique qui était un lieu par excellence d'expression de la spiritualité et de la dévotion au centre de l'église que représente le pape, c'est très audacieux, et c'est là que Jules II est un pape très moderne. Il est de son temps en faisant construire cette basilique, décidée d'ailleurs par ses prédécesseurs et notamment par Sixte Quint. Il va dans le sens d'une grandeur qui emprunte au baroque et à l'exaltation monumentale, ce qui représente à l'époque le comble de l'esthétique en matière de goût et de référence à la transcendance à travers le beau et le grand.
Est-ce qu'on peut dire en matière d'esthétique que comme ce chantier a duré plus d'un siècle et que 20 pontifes se sont succédés, 10 architectes également, le style, le résultat aujourd'hui de ce qu'est la basilique Saint-Pierre transpire justement cette volonté d'en faire un symbole du pouvoir?
Oui, parce que effectivement, on peut dire que la basilique Saint-Pierre, quand on la regarde, la façade ressemble plus à un palais romain qu'à véritablement une basilique. Le grand triomphe de la basilique, c'est le dôme de Bramante et Michel-Ange, hein, qui se sont relayés, qui est exceptionnel par la coiffure qu'il donne à ce palais, son élévation, et d'autre part le relais à l'intérieur par le baldaquin et l'autel pontifical. D'autre part, la colonnade du Bernin, qui en serre en deux bras ouverts la place Saint-Pierre, est destinée précisément à accueillir les pèlerins et à permettre ces fêtes monumentales qui se sont développées tout au long du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, et qui rassemblaient des foules, qui rassemblent d'ailleurs encore des foules aujourd'hui, puisque la place contient plus de 300 000 personnes. En revanche, cette monumentalité affectée, cette urbanisation accélérée, a créé ce complexe anti-romain de Luther et puis des calvinistes et de l'ensemble des églises protestantes au XVIe siècle, et qui a donné au Concile de Trente. Lequel Concile de Trente, au cours des 20 pontificats qui sont suivis, n'a fait qu'à la suite de ce qu'on appelle la contre-réforme, et maintenant qu'on appelle la réforme catholique, accélérer l'exaltation, notamment parce que les clés de Saint-Pierre symbolisent véritablement le primat pontifical, que la dévotion à la Vierge, qui est incarnée par la Pietà quand on rentre dans la basilique, dans la première chapelle à droite, et si j'ose dire, une exaltation du culte marial auquel justement les protestants, comme on dit, pas rapidement, ne se prêtent pas, que l'autel pontifical sous le dais et le baldaquin du Bernin est encore une exaltation de la force spirituelle du souverain pontife, et que surtout, cet autel est bâti à l'aplomb de Saint-Pierre. Il faut bien savoir que la grande idée de Jules II, qui donc était un humaniste et un lettré, c'était de bâtir une basilique à l'aplomb du tombeau de Saint-Pierre, dont au fond, à l'époque, on était sûr, plutôt par réputation que par découverte archéologique, comme y a procédé Pie XII. Donc c'est cela, c'est exprimer la continuité de Saint-Pierre, martyr à Rome, d'ailleurs plutôt au pied du Janicule que là où finalement on a découvert qu'était sa sépulture, une continuité parfaite qui montre la grandeur de l'Église tout au long des siècles, du 1er siècle de notre ère jusqu'au 16e siècle, enfin, début du 16e siècle.
Bon pied, bon œil, la reine Elisabeth II fête cette semaine ses 4 fois 20 ans, alors que la monarchie britannique a retrouvé une certaine sérénité depuis le remariage de Charles avec Camilla il y a un an. Mais à quoi sert une reine au train de vie dispendieux qui n'a en fait aucun réel pouvoir ? L'immense majorité des Britanniques ne se pose même pas la question, tant elle fait partie de leur histoire. Nous en parlons avec Vincent Mélan, il est chef du service royauté à Point de vue Image du Monde et auteur chez Pygmalion de « La véritable Elisabeth II, reine d'Angleterre ».
Elle est totalement anachronique, enfin elle semble totalement anachronique par rapport au mode de vie actuel. On vit dans des sociétés dans lesquelles les produits sont consommés au bout de 6 mois, quand c'est pas 3, quand c'est pas 2, où un chef d'État a une durée de vie de 1-2 mandats, les députés, le monde politique peut être renouvelé relativement rapidement, et elle est reine depuis 1952, c'est-à-dire 54 ans, et c'est le plus ancien chef d'État en exercice d'Europe occidentale. Donc c'est vrai que, de toute façon, chaque fois qu'il y a un anniversaire, quel qu'il soit, on a tendance à en parler dans les médias, parce que ça nous paraît totalement invraisemblable, c'est un cas unique.
Alors, est-ce que cette reine est une reine toujours énigmatique, justement, après 54 ans de règne ?
C'est là, sans doute, effectivement, qu'elle a très bien réussi son coup. C'est sans doute un des personnages les plus secrets du monde contemporain. Moi, à titre personnel, ça fait 15 ans que je m'occupe d'elle, je crois qu'on m'a répété 2 fois des phrases qu'elle aurait prononcées. Si vous voulez, on ne répète même pas ce qu'elle dit. Il y a une telle omerta autour de ses paroles et ses actions, mais en général, même ça, on ne le sait pas. Alors, on ne connaît pas ses goûts, ou très peu, on ne connaît pas son mode de vie, on ne peut qu'interpréter les indications qui nous sont données de l'extérieur. Mais c'est vrai que c'est un personnage qui est très secret. À mon avis, on en connaît plus sur le pape que sur la reine d'Angleterre.
En parlant de goûts, on connaît en tout cas ses goûts vestimentaires et sur lesquels on a beaucoup écrit.
Pas forcément, parce qu'en fait, on connaît ses goûts officiels, mais on ne connaît pas ses goûts quotidiens. Si vous voulez, on connaît son uniforme. On sait qu'elle est obligée d'avoir des jupes ou des robes avec des ourlets qui sont plombés parce qu'elle ne peut pas se permettre qu'un coup de vent s'engouffre sous sa jupe quand elle descend la passerelle d'un avion, quand elle arrive dans un pays étranger. On sait qu'elle a des chapeaux qui doivent toujours dégager le visage pour qu'on puisse la reconnaître immédiatement. On sait que chaque fois qu'elle est en robe du soir, elle a invariablement un diadème sur la tête parce que ça fait partie de son uniforme. Et sa belle-fille, d'ailleurs, la duchesse d'York, disait toujours que sa belle-mère était la seule femme qu'elle connaisse qui soit capable de poser un diadème sur sa tête sans se regarder dans un miroir et en marchant. Donc la reine Elisabeth, elle a des automatismes comme ça, mais qui sont liés à son aspect officiel. On connaît très peu de choses sur ses goûts privés vestimentaires. On sait un petit peu que sa tenue favorite, c'est quand même d'avoir des bottes en caoutchouc, un foulard au-dessus de la tête parce qu'elle ne supporte pas de porter une bombe, et un espèce de barbare et de monter à cheval le parc de Windsor ou à Sandringham, si possible quand il pleut et quand il y a du brouillard. Ça, c'est une des choses qu'on sait. Mais on sait très très peu de choses sur la manière, par exemple, dont elle s'habille tous les matins quand elle n'est pas obligée de sortir.
Alors peut-on dire plus profondément que la reine Elisabeth, quelque part, est un monument, mais d'abord symbolique? Que représente-t-elle pour les Britanniques aujourd'hui, alors que parfois, et de manière régulière, on se questionne sur l'utilité aujourd'hui de cette monarchie?
C'est comme si on se questionnait sur l'utilité de la République en France. Ce qui est important, c'est la forme démocratique d'un pays. À partir du moment où la démocratie est acquise, où elle existe, si elle est venue par la République, tant mieux pour la République. Si elle est venue par la monarchie, tant mieux pour la monarchie. La monarchie en Grande-Bretagne est la clé de voûte et le cadre des institutions démocratiques, de la même manière que la République est la clé de voûte et le cadre des institutions démocratiques en France. Pourquoi se poser des questions sur la monarchie britannique? Pourquoi? Elle coûte pas plus cher qu'une République française. Elle est beaucoup plus efficace. On l'a vu pendant la Seconde Guerre mondiale. Dieu sait que les souverains britanniques ont mieux résisté à Hitler que la République française au moment de Vichy. Et elle a fait ses preuves au niveau démocratique. C'est l'organisme qui permet à cette démocratie de s'exprimer en Grande-Bretagne. Il n'y a pas de débat à avoir là-dessus.
Alors, en 54 ans de règne, est-ce qu'Elisabeth II a été déterminante à plusieurs moments de l'histoire de son règne pour son pays?
Je pense qu'elle a quand même assuré une décolonisation plus facile que celle que la France a pu avoir. Ça, c'est un autre exemple, si vous voulez. Regardez la manière dont la France a assuré sa décolonisation en tant que république. Regardez les rapports qu'elle a aujourd'hui avec certaines de ses anciennes colonies. Et regardez, à l'inverse, comment cette décolonisation, qui a été en très grande partie assurée par Elisabeth II, s'est faite en Grande-Bretagne et quels sont les rapports que la Grande-Bretagne a avec ses anciennes colonies. Tout ça est quand même beaucoup plus apaisé, beaucoup plus serein et beaucoup moins violent différent que ce que nous, on peut avoir en France et dans notre République française. Alors, c'est un exemple qui me vient un petit peu à l'esprit comme ça maintenant. Y en a-t-il d'autres? Je pense qu'en termes d'alternance démocratique et parlementaire, c'est quand même beaucoup plus facile d'alterner la droite et la gauche au poste de Premier ministre et dans la majorité au Parlement lorsque le chef de l'État est apolitique et est un souverain, alors que lorsque le chef d'État appartient lui-même à un des deux clans, ça doit être quand même beaucoup plus difficile d'alterner. C'est ce qu'on a eu en France, ces espèces de malheureuses phases dites de cohabitation pendant lesquelles le pays était paralysé parce que la majorité n'arrivait pas à faire ce qu'elle voulait avec un président qui était de l'opposition.
On a l'impression aujourd'hui que la reine Elisabeth II fête cet anniversaire, ses 80 ans, dans une certaine sérénité, en tout cas une sérénité retrouvée.
Retrouvée, oui. Parce qu'effectivement, je crois que vous avez le bon terme, il y a une quinzaine d'années, je pense que lorsqu'elle avait 65 ans, elle envisageait peut-être, comme tout un chacun, de se mettre un petit peu en retrait par rapport à l'activité politique en tant que chef d'État. Elle pensait avoir réglé le problème de la succession avec le mariage du prince Charles et Lady Diana Spencer et la naissance du prince William. Elle pensait pouvoir un petit peu se retirer. Ça a été exactement le contraire, parce que les problèmes matrimoniaux de ses enfants, les dissensions qui ont eu lieu entre le prince de Galles et son épouse, la manière dont tout cela a été exposé dans les médias, les révélations ou les pseudo-révélations de la princesse Diana, les interviews qu'elle accordait à droite et à gauche, et sa mort quand même prématurée et terrible, tout ça ajouté aux problèmes qu'on a connus à côté, puisque le duc d'York lui aussi a divorcé, la princesse Anne aussi a divorcé, le château de Windsor pour couronner le tout a pris feu. C'est vrai qu'au moment où elle pensait se retirer, elle a été obligée de rester au poste d'une manière extrêmement active parce que elle a vécu une série de crises absolument sans précédent. Elle a dû reprendre du service actif pour régler ces crises. Alors aujourd'hui, tout ça s'achemine vers quelque chose de beaucoup plus serein. La dernière phase qu'il fallait accomplir, c'était le remariage du prince Charles avec Camilla Parker Bowles. Maintenant, c'est chose faite et en plus, ça a l'air de fonctionner parce que même si les Britanniques sont toujours réticents à voir Camilla devenir reine, dans leur majorité j'entends, ils sont en tout cas majoritairement aujourd'hui favorables à ce mariage et ils trouvent que cette femme est plutôt sympathique, donc les choses avancent et c'est vrai qu'on est dans une espèce de sérénité retrouvée. Bon, il était temps, elle a 80 ans, le duc d'Édimbourg en a quelques années de plus et je pense que c'est pas du tout un hasard si la semaine dernière Buckingham Palace a annoncé que la reine allait changer de résidence et s'installer plus régulièrement maintenant au château de Windsor, c'est-à-dire à la campagne, et elle ne viendra à Londres que 2 jours par semaine, parce que c'est vrai qu'elle aspire sans doute à une certaine forme de loisir, de détente, puis c'est quand même une dame qui doit être assez fatiguée, et je crois que le duc d'Édimbourg lui-même est assez fatigué, dans laquelle elle a peut-être envie de s'occuper un petit peu de son époux et de vivre d'une manière un peu plus tranquille à la campagne.
La Cour internationale de justice, plus haute instance judiciaire des Nations unies, célèbre ses 60 ans avec des appels aux États pour qu'ils s'obligent à la saisir pour régler leurs différends. Seul problème, mais de taille, la Cour ne peut intervenir que si les deux parties, les deux pays en litige le décident ou lorsque des traités bilatéraux le prévoient. La CIJ, qui est pourtant la seule juridiction internationale à posséder une compétence générale, semble parfois occultée par la Cour pénale internationale ou encore le TPI, comme si elle était délégitimée. Écoutons à ce propos Françoise Boucher-Saulnier, directrice juridique de Médecins sans frontières, auteure il y a quelques années du dictionnaire pratique du droit humanitaire, traduit désormais en 7 langues, dont récemment le russe et l'arabe.
Cette Cour fait partie vraiment des instances fondatrices. Elle fait partie de la Charte des Nations Unies et elle était là pour, dans les différents entre États, au-delà de la question de savoir qui est le plus fort ou qui n'est pas le plus fort, dire où était le droit, c'est-à-dire se prononcer sur la légalité des politiques menées par les différents États quand ils rencontrent des conflits. Alors ça peut être des différents territoriaux, mais il y en a de moins en moins, et c'est également effectivement des différends relatifs à des politiques d'agression. Mais donc c'est une Cour qui fait partie intégrante du système des Nations Unies et qui, j'allais dire, sa plus grande faiblesse, c'est qu'en fait, ce sont les États eux-mêmes qui doivent soumettre leurs questions, leurs litiges, leurs conflits. C'est les États eux-mêmes qui doivent se dire, bon, bah, peut-être qu'on pourrait demander un avis de droit à la Cour et qu'à partir de cet avis de droit, on arriverait à reprendre des négociations différemment. Donc c'est à la disposition des États et la seule critique qu'on puisse faire, c'est que les États ne s'en soient pas plus servis dans les dernières années. Alors pendant la période de la guerre froide, c'est vrai que tout était un petit peu gelé. Depuis le conflit en ex-Yougoslavie quand même, les États ont eu recours à la Cour internationale de justice, notamment c'était la première fois la plainte de la Bosnie pour génocide. à un moment où la communauté internationale était un petit peu empêtrée dans une opération de maintien de la paix où on ne voulait pas trop intervenir, la Bosnie voulait que la Cour internationale de justice qualifie la situation sur le terrain pour dire, bon, est-ce que c'est un génocide ou pas? Et si c'est un génocide, est-ce qu'on ne devrait pas prendre d'autres modalités d'action? Donc c'est vraiment une responsabilité des États de se saisir de la compétence de la Cour sur leur politique. Et donc ça explique aussi peut-être pourquoi ils sont un peu frileux, c'est que c'est une Cour qui peut qualifier les politiques des États et non pas juste dire tel individu est criminel.
Saisir cette cour, il faudrait dès lors au moins que les deux parties, donc non seulement le décident, mais reconnaissent la compétence de cette cour. On est frappé par les chiffres, un tiers des États membres des Nations Unies reconnaît le caractère obligatoire de cette juridiction, seul un tiers, et sur les cinq membres permanents du Conseil de sécurité, seul un, la Grande-Bretagne. Est-ce aussi l'une des raisons pour lesquelles on n'a pas énormément de cas finalement de recours à cette Cour internationale de justice?
Ça explique certainement la faiblesse de ce mécanisme. Ceci dit, le fait que sa compétence ne soit pas obligatoire n'empêche pas les États, au moment où un problème se pose, de choisir finalement d'avoir quand même un avis de droit. C'est pas le cas qui a été le plus fréquent. Et on voit aussi qu'on est dans le cadre des Nations Unies, on voit bien effectivement aussi que les États membres permanents du Conseil de sécurité, c'est-à-dire les grandes puissances, n'ont pas voulu être obligés de saisir la Cour et être obligés finalement d'obéir à ses décisions si elles étaient rendues. Donc ça, c'est un point majeur, mais qui est, j'allais dire, la zone de faiblesse de tout le système international actuel. Et il faut, j'allais dire, vivre avec en mettant la lumière sur les refus, hein, les refus et les choix politiques qui sont faits par certains États. Je pense que ce qui est nouveau quand même, c'est que depuis les années 90, il y a quand même une accélération des décisions rendues par la Cour sur des sujets extrêmement politiques, dans des délais qui sont de plus en plus rapides, parce que la Cour fonctionnait très 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 lentement. Il fallait, notamment pour notamment la saisine sur l'ex-Yougoslavie et la plainte de la Bosnie, qui était aussi assortie d'une plainte de la Serbie contre la Bosnie, il a fallu quand même quelque chose comme 6-7 ans pour qu'une décision soit rendue. On a vu que sur l'affaire du mur construit par les Israéliens, ça a été une décision très rapide. Donc il y a une accélération du travail de la Cour qui peut certainement lui permettre d'avoir plus d'autorité et de peser sur la gestion politique des relations internationales dans l'avenir. Ça, c'est un élément nouveau. Il faut savoir aussi qu'au-delà de la notion finalement de la saisine par les États, il peut aussi y avoir une saisine sur un avis consultatif. Donc il y a des moyens détournés de mettre en route cet organe, alors qu'il doit être déclenché par les organes des Nations Unies et pour lesquels effectivement on peut aussi avoir un potentiel de créativité et de dynamisme dans l'avenir.
La nouvelle présidente de cette Cour internationale de justice, Rosalind Higgins, a fait remarquer que ces dernières années, on faisait plus de cas finalement des procès faits aux personnes. On prend le cas par exemple du procès à Milosevic, plus que finalement des procès sur des litiges justement entre États ou pour des questions de violation des droits de l'homme, de droit international ou de droit humanitaire. Est-ce que c'est une remarque que vous partagez?
Alors, c'est effectivement, je veux dire, un constat. Hein. Ce qui a le plus bougé depuis ces 10 dernières années et la création, ça a été les tribunaux pénaux internationaux, ad hoc d'abord, et puis aujourd'hui la Cour pénale internationale, dont la fonction, c'est de juger des individus responsables de crimes de guerre, crimes contre l'humanité ou crimes de génocide. Alors, effectivement, le système, là, cherche à mettre en évidence des responsabilités criminelles individuelles. Et ne se prononce pas sur des responsabilités criminelles au niveau politique général, c'est-à-dire d'organes de gouvernement, de partis politiques, etc. Alors effectivement, il y a un déséquilibre entre les deux, mais je pense que les deux sont tout à fait complémentaires. Je crois que si on a inventé, entre guillemets, si on a réinventé la responsabilité criminelle individuelle, c'est parce qu'il était extrêmement difficile de mettre en cause la responsabilité criminelle politique et collective. Donc on commence par l'individuel et on monte effectivement jusqu'à impliquer des politiques gouvernementales. Je pense qu'il est effectivement important de garder la notion du caractère complémentaire de ces deux procédures, puisque l'une sans l'autre est tout à fait inefficace. Si on condamne que des politiques sans finalement à un moment arrêter des individus, ce n'est pas plus efficace. Mais si on condamne que des individus sans jamais remonter au fait qu'ils obéissaient à des ordres et à des politiques qui étaient définies au plus haut niveau de l'État, là aussi on est dans une espèce de justice spectacle qui va trouver quelques boucs émissaires, mais qui ne sera pas finalement représentative de la réalité des crimes qui sont commis, qui ne sont pas juste des pulsions individuelles, mais qui sont effectivement des politiques collectives criminelles. Donc je crois que c'est la complémentarité des deux mécanismes sur laquelle il faut accentuer, plutôt que de dire l'une est meilleure que l'autre.
Fin de ce magazine, merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine.